Vous écoutez
RMC.
Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Yann Moix.
Bonjour Apolline.
Merci d'avoir accepté, ça va bien, ça va bien. On va voir si vous, ça va bien aussi, parce que vous publiez donc ce petit livre, on va y revenir, ce petit livre qui s'appelle Visa, un livre étrange, une sorte d'objet non identifié où vous racontez un dialogue semi-imaginaire avec un agent de la Corée du Nord. La Corée du Nord, on n'en a jamais autant parlé qu'à cause de vous, ou avec vous, ou grâce à vous. Ces images qui sont ressorties, ces images qui avaient été tirées d'un film, vous allez nous raconter dans quel contexte, qui ont entraîné à nouveau un épisode du terrible feuilleton Gérard Depardieu. Mais je voudrais d'abord, Yann Moix, on va parler de liberté, on va parler de violence, on va parler de cinéma, on va parler d'antisémitisme aussi, mais donner la parole à Bernard Pivot que vous avez bien connu, qui est mort hier et qui a souvent parlé de vous aussi, Yann Moix. Et j'ai retrouvé ces mots, il dit « Je pense que Yann Moix a un très grand talent, un talent immense, mais il a un talent immodéré de la contestation, de la provocation, des sunlight. C'est un écrivain surdoué, mais si je peux lui donner un conseil, et je peux, car je suis plus âgée que lui, ce serait de se couper des médias, de rentrer chez lui, de rentrer à l'intérieur de lui-même, dans la paix, dans le silence, pour écrire les grands livres qu'il porte en lui, et peut-être avoir le Goncourt comme il le souhaite. » Au fond, j'aurais peut-être pas dû lire ça, parce que je me demande un peu du coup ce que vous faites là.
Non, au contraire, je travaille énormément dans la paix et l'intériorité de mon être. Je lis énormément. Et c'est d'ailleurs les deux occupations principales de mon existence. Et je trouve parfaitement normal qu'un écrivain, comme ça a toujours été le cas, chère Apolline, toujours, prenne la parole, sauf qu'aujourd'hui, c'est dans les médias audio et télévisés. À l'époque de Gide et de Camus, c'était essentiellement dans la presse écrite, mais il est parfaitement normal qu'un écrivain s'engage, dise ce qu'il pense, pour une raison simple. C'est que les journalistes ont une façon de voir les choses, qui est d'ailleurs très utile pour les écrivains, mais pas que. Et les écrivains ont une manière différente d'appréhender l'actualité par un prisme qui est le leur. Et je crois que les deux se complètent, parce que l'actualité est tellement complexe que c'est bien que les écrivains...
C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin avec votre regard sur notre époque. Puisqu'on parlait de Bernard Pivot, est-ce qu'il fait partie aussi pour vous de ceux qui vous ont fait aimer les livres ou vous permettent aussi de parler des livres au plus grand nombre?
Ah, Bernard Pivot m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de regarder la télévision quand j'étais petit. Et c'est son émission qui m'a donné envie d'être écrivain. Parce que ce n'est pas lui personnellement, c'est les gens qui l'invitaient. J'ai vu pour la première fois de ma vie Nabokov quand j'avais 8 ans à apostrophe. Et Nabokov, pour moi, c'était un personnage inoubliable. Je me souviens très bien de la fois où j'ai vu aussi Bukowski. Je me souviens très bien la fois où j'ai vu Solzhenitsyn. Alors avec un peu plus de... quelques années plus tard, mais il y avait beaucoup de rediffusions. Et Bernard Pivot avait toujours l'intelligence de mélanger des écrivains français avec des grands écrivains internationaux, et donc c'était pas du tout une vision franchouillarde de la littérature. Pivot m'a fait comprendre que la littérature n'était pas simplement des gens qui racontaient des histoires, mais des gens qui avaient quelque chose à dire sur l'être humain. C'est une vraie perte parce que c'est quelqu'un d'à la fois très populaire, très simple, mais aussi quelqu'un d'extrêmement profond et de très intelligent, et qui aimait le foot, le vin et la littérature, pas les livres. La littérature, les livres, ça n'a aucune importance. C'est la littérature qui compte. Et des grands écrivains, il y en a 4-5 par décennie. Et Pivot ne les a jamais ratés, ceux-là.
Il ne les a jamais ratés. Yann Moix, vous publiez ce petit livre étrange, ça s'appelle Visa. C'est une sorte de pièce de théâtre, de dialogue entre vous, que vous décrivez, vous vous auto-décrivez comme un indécrottable petit bourgeois parisien, et face à vous, un agent administratif de la Corée du Nord. Je voudrais quand même comprendre votre fascination, assez sordide quand même, pour la Corée du Nord, et ensuite l'idée même d'emmener un Gérard Depardieu en Corée du Nord.
Alors, je ne vous permets pas de dire que la fascination est sordide pour une raison très simple, Apolline. C'est un pays extrêmement mal connu. C'est un ailleurs.
Bah de fait, il est mal connu parce qu'on ne peut pas y rentrer. Sauf après un si long dialogue.
J'y suis allé 4 fois, on peut donc y rentrer. Si vous voulez, c'est un ailleurs. Dans un monde où tous les pays se photocopient les uns les autres. Dans un monde où chaque aéroport est le jumeau de l'aéroport précédent. Vous allez à Manaus, c'est exactement le même aéroport qu'à Londres ou à New York. La Corée du Nord est un ailleurs. Et j'aimerais aussi vous préciser que dans cet ailleurs, contrairement à ce que les gens s'imaginent, il y a des gens qui habitent. Il y a une population en Corée du Nord. Il y a des citoyens nord-coréens. Il y a des habitants des villes nord-coréennes. Et bien sûr que vous ne pouvez pas aller en Corée du Nord, que vous soyez journaliste ou écrivain, sans que le régime vous y autorise. Donc, bien sûr
vous y autorise et vous y surveille.
Bien
vous
sûr.
Vous y accompagne dans chaque mouvement.
Vous avez deux guides en Corée du Nord qui se surveillent l'un l'autre et qui vous surveillent. C'est comme la Russie ou l'URSS des années 60 ou 50. Et c'est un pays qu'il est extrêmement difficile de comprendre à travers la littérature qui y est consacrée. Pour comprendre ce pays, comme disait Hemingway, il faut aller voir, il faut y aller physiquement. Et c'est pas le seul pays étrange qui m'intéresse. J'adore voyager. Je suis allé en Syrie, je suis allé en Albanie, je suis allé en Corée du Nord. Mais d'abord, c'est la culture coréenne dans son ensemble qui m'intéresse. Et je m'aperçois que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont beaucoup de points communs. Donc, connaissant bien la Corée du Sud, je voulais connaître le Nord.
Et vous avez donc été connaître le Nord.
Mais ce n'est pas plus sordide qu'autre chose, c'est un voyage.
C'est un voyage. Alors, vous parlez de cette population, on se dit quand même qu'elle souffre, cette population, et vous en parlez presque comme si vous alliez regarder un tableau.
Pas du tout, d'ailleurs, je parle de la souffrance de la population. C'est un pays extrêmement douloureux, qui a une histoire douloureuse, qui a hérité sa violence de l'occupation japonaise. C'est un pays, la Corée a été occupée pendant 40 ans par les Japonais. Vous imaginez si les Allemands nous avaient occupé pendant 40 ans, le traumatisme que ça laisse. C'est un pays passionnant. Et si on veut comprendre aussi la Chine, c'est intéressant de comprendre la Corée du Nord, parce que la Chine fait souvent faire le sale travail par la Corée du Nord. Et ça sert d'état tampon, la Corée du Nord, entre l'Occident, les États-Unis, parce que les Américains sont encore en Corée du Sud, et la Chine. Donc la Corée, Sud et Nord, c'est extrêmement intéressant.
Yann, moi, que vous avez emmené Gérard Depardieu en Corée pour y réaliser un film. Des images de ce film ont été publiées, montrées par l'émission Complément d'enquête. Depuis, vous avez même porté plainte contre eux. A-t-il, Gérard Depardieu, oui ou non, prononcé les mots assez infâmes qu'on a entendus ?
Alors, d'abord, c'est pas des images de mon film, c'est des images volées d'un film qui ont été diffusées. C'est-à-dire que le producteur m'a volé un film qui s'appelle 70, qu'une centaine de personnes ont vu, dont certains de vos confrères et consoeurs, du Monde notamment. Ce film fait 2h30. C'est un film burlesque tourné en Corée du Nord. Alors après, on peut s'interroger sur le bien fondé de faire un film burlesque en Corée du Nord.
Mais avec Gérard Depardieu.
Tout simplement, avec n'importe qui. Gérard Depardieu, quand je suis allé en Corée du Nord en 2018, avait eu une plainte. Une plainte. Une plainte qui n'avait pas été jugée, qui n'avait pas été...
Depuis, il y a deux plaintes pour viol, trois plaintes pour agression sexuelle, et il sera jugé en octobre prochain.
Une plainte, c'est-à-dire que quelqu'un avait porté plainte. Je crois quelques jours avant qu'on parte. Nous sommes partis faire ce voyage. J'ai tourné un film de fiction. Alors tout le monde me dit, oui, c'est pas possible, parce qu'un film de fiction, c'est un scénario. Mais si je vous citais le nombre de films dans l'histoire du cinéma qui ont été faits sans scénario, de Pierrot le Fou à In the Mood for Love, c'est une manière de faire du cinéma que de trouver le genre du film au montage. J'ai passé 3 mois au montage, j'arrive avec un film de 2h30, et le producteur, M. Anthony Dufour de chez Ikari, se dit, zut, on ne pourra pas sortir le film en salle comme prévu, puisque Gérard a des gros problèmes avec la justice. Qu'est-ce qu'il fait pour retrouver ses billes ? Plutôt que de ne rien faire avec le film, plutôt que d'essayer de voir ce qu'on peut faire du film, sans me prévenir, alors que j'ai un droit moral sur mon film, il va à France Télévisions, leur propose un sujet sur Gérard Depardieu en disant « J'ai des images, oubliant que ce sont mes images, qui vont être détonnantes et scandaleuses. » Or, ce n'est plus ni moins que des images qui ont été arrachées à un film de fiction pour les mettre dans un film documentaire à charge contre Gérard Depardieu et... avec cette bidouille dont j'attends encore que l'ARCOM enquête dessus, mais malgré mes lettres, l'ARCOM ne fait rien, et France Télévisions, que je mets en procès, n'a encore pas répondu.
Eux, ils affirment, hein, et c'est qu'ils n'ont absolument pas fait de montage, hein, et
je
qu'ils n'ont pas mélangé ou
personne,
dispatché ou décalé
l'image et son. Ma chère Pauline, deux choses. Personne n'a jamais vu le constat de l'huissier. Jamais. J'ai demandé au tribunal, il y a un procès en ce moment, on n'a pas vu le constat de l'huissier. C'est très étrange. Et deux, Le Monde, le journal Le Monde Magazine, c'est pas moi. Le Monde Magazine a vu mon film et un des journalistes du Monde dit, effectivement, dans la version d'Yann Moix, on voit que Gérard Depardieu tient ses propos sur une femme de 35 ans.
Vous parlez des propos et ce qui a fait particulièrement réagir, les propos sont assez immondes, mais l'image, effectivement, qui est raccord dans Complément d'enquête, c'est que ces images assez immondes, ces propos immondes, sont au moment où c'est une fillette qui monte à cheval.
Vous savez, dans un montage, on peut faire absolument ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une seule image ?
Donc vous dites, attendez, Yann Moix, je voudrais qu'on comprenne. Oui. Vous dites, oui, Gérard Depardieu a tenu ses propos, ses propos sur en regardant une femme,
exact,
mais non pas une fillette. Mais vous dites bien qu'il a tenu ses propos.
Il a tenu ses propos sur une femme de 35 ans.
Vous en pensez quoi, vous, de ses propos ?
Ah bah, les propos sont ignobles, mais attendez, Apolline. Des propos ignobles, sur, ou inexcusables, ou choquants, ou violents, ou sinistres, sur une femme de 35 ans, c'est une chose. C'est une chose. Sur une enfant, ça fait de Gérard Depardieu un criminel. Ça fait de Gérard Depardieu un pédophile. Ça fait de Gérard Depardieu un être qui est tout d'un coup puni pour quelque chose qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Et je trouve gravissime. Vous imaginez ces gens dans la boîte de production de chez Ikari qui tout d'un coup se disent « Mets les images sur la fillette, allez, vas-y, vas-y, mets les images sur la fillette. » Mais c'est d'une brutalité, d'une violence absolument inexcusable. Et ça, ça mérite un procès. L'ARCOM devra s'en expliquer. France Télévisions devra s'en expliquer.
L'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel. Hein.
D'ailleurs, je peux dire quelque chose sur l'ARCOM.
Allez-y.
Je trouve qu'on est, on baigne dans l'immaturité la plus totale. Un pays comme la France a besoin d'avoir inventé une institution qui vient toute la journée regarder des émissions, par exemple, vient regarder Cyril Hanouna toute la journée pour savoir.
Donc vous avez été chroniqueur, hein, je précise.
Oui, oui. Non, mais je prends cet exemple. Je peux en prendre.
Oui, oui, mais c'est important quand même de savoir aussi que vous êtes.
Non, mais peu importe.
Impliqué, j'irais.
Non. Je veux dire par là que j'ai toujours trouvé l'ARCOM. Avant, ça s'appelait pas l'ARCOM. Hein.
Ça s'appelait, je sais même plus, oui, là, le CSA.
Le CSA. Vous imaginez quand même qu'un pays comme la France, où il y a une liberté de parole, vous regardez les sites de l'INA, vous pouvez voir des gens qui fument, qui boivent
et
qui débattent.
On parlait de Pivot tout à l'heure.
Et qui débattent. Parce que je vois quelque chose d'assez étrange, Apolline. J'imagine que vous avez souvent été voir des documentaires sur l'INA ou des vieilles émissions. Oui. Mais c'est quand même étrange qu'il y a une simultanéité du débat et de l'alcool et de la cigarette. Non mais c'est très étrange. L'ARCOM est une sorte d'âge de gendarme qu'on s'est inventé nous-mêmes pour nous fliquer nous-mêmes, comme si on n'était pas assez grand pour faire un travail de débat démocratique avec les débordements qu'on souhaite s'il le faut. Tandis que là, on a l'impression qu'on s'est inventé un gendarme
sur mesure.
Alors
en même temps,
là,
il vous arrange,
si on était
vous arrange l'ARCOM. Enfin, en tout cas, vous espérez que l'ARCOM sera de votre côté.
Ce qui est très étrange, c'est que l'ARCOM essaye de punir mon avocat qui est allé expliquer la thèse du bidouillage de l'information. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ARCOM fasse son travail. Pourquoi est-ce que l'ARCOM n'enquête pas sur le rapport de l'huissier? Pourquoi l'ARCOM ne travaille pas sur le bidouillage acheté par France Télévisions? Car je ne pense pas que ce soit France Télévisions qui bidouillait. Ils ont acheté un reportage à bidouiller.
Donc, vous ne pensez pas que France Télévisions a sciemment...
Non, je ne pense pas que ce soit sciemment. Ils se sont retrouvés dans une impasse et depuis, ils bottent en touche et ils cachent le rapport de l'huissier. Je demande à un expert indépendant pour analyser les rushs. Vous savez, Apolline, il y a des bandes de synchronisation sur les films. Donc, c'est très facile de montrer que...
Yann Moix, vous le voyez toujours, Gérard Depardieu, est-ce que vous en parlez avec lui?
Non, je ne le vois pas en ce moment, je n'ai pas de nouvelles. Je crois que Gérard, si elle m'en veut, de l'avoir emmené en Corée du Nord, parce que moi, j'ai fait confiance à un producteur qui m'a trahi, mais Gérard, il m'a fait confiance à moi, pas au producteur. Donc, indirectement, il se retrouve dans une sauce nord-coréenne, tout simplement parce qu'il m'a fait confiance.
Yann Moix, il y a le Festival de Cannes dans quelques jours, et des rumeurs, un peu une sale rumeur qui court, plusieurs s'en font écho, des journalistes qui disent qu'il y aura une liste, on ne sait pas très bien d'où elle sortirait, mais une liste de 10 nouveaux noms du MeToo du cinéma. Est-ce qu'il faut, comme ça, sortir des listes si effectivement les gens ont eu des comportements déplacés, voire même coupables? Est-ce qu'il faut que cette liste sorte, est-ce qu'il faut purger?
J'y suis absolument défavorable. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, vous savez que je suis un ancien enfant martyr, etc.
Alors ça, c'est votre version. Vos parents ont tenté de vous poursuivre. mais vous avez gagné, vous avez obtenu gain de cause.
Vous pouvez pas
la
dire.
Justice.
On m'a suffisamment accablé.
Ils n'ont pas pu vous poursuivre.
J'ai gagné mon procès.
Voilà.
C'est-à-dire que la justice a considéré qu'il y avait des éléments suffisamment sérieux pour considérer que j'avais été un enfant martyr. Donc j'ai gagné le procès. C'est un procès qui a duré 8 heures. J'y étais, mes parents y étaient, mes géniteurs, pardon. Donc, je peux, s'il y a une justice. Et c'est justement, c'est marrant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de dire, que la justice finalement.
Non, ils ont tenté de vous. Il est clair et je crois qu'il est factuel de dire que vos parents ont tenté de vous poursuivre pour diffamation.
Oui, donc il n'y avait pas diffamation. Donc ce qui prouve bien que ce que je racontais dans Orléans était la vérité. Non, je vais vous dire pourquoi je suis défavorable. Je n'ai aucun humour sur les violences, sur les enfants, sur les femmes, sur les animaux. Je ne mélange pas ces trois catégories, que les choses soient claires. Les violences faites aux femmes, les viols, les brutalités et même les incivilités, les mains aux fesses, les petits gestes qui sont en fait consubstantiels à un climat général de violence, il faut que ce soit fait avec beaucoup de méticulosité. Si ça bave, si ça déborde, alors le combat va être déconsidéré par approximation successive.
Vous avez peur que ça défavorable au mouvement MeToo et à la véritable liberté.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable, Apolline. On a une justice en France qui est certes débordée, mais qui fonctionne. On a une belle justice. On s'est battu, des gens sont morts en 1848, en 1830, en 1789, en 1940, pour que cette justice puisse fonctionner. La République, c'est une chose, mais on oublie toujours que la République, c'est aussi la justice. Et on a une justice qui fonctionne très bien, une belle justice, et je trouve dommage que des gens pressés, et on peut comprendre que des victimes soient pressées, c'est humain, mais je trouve dommage que les victimes n'attendent pas, que les plaignants ou les plaignantes n'attendent pas quelques mois ou quelques années pour qu'on ait un rendu beau à regarder, c'est-à-dire quelque chose
précis, factuel,
qui est taillé comme un diamant, que la personne,
après une enquête
sérieuse, parce que là, les personnes pourront être punies au prorata de ce qu'elles ont commises, et surtout, l'à peu près ne sera plus de mise. Et l'à peu près, c'est grave, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont mal comportés, et ces gens-là ne peuvent pas être comparés à des gens qui se sont rendus coupables d'un crime. Et j'ai peur d'une assimilation, et j'ai aussi peur d'une chasse aux sorcières approximative. C'est l'approximation qui me fait peur.
Yann Moix, l'antisémitisme. Gabriel Attal, hier, parlait d'un mouvement qui s'était décomplexé. Il y a évidemment les mouvements qui se passent dans les facultés, des mouvements pro-palestiniens qui, d'après certains témoignages, seraient aussi une forme d'intimidation, voire d'exclusion de certains étudiants juifs. Vous le dénoncez aujourd'hui?
Je pense que ça ne recommence pas, l'antisémitisme. Je pense que la situation n'est pas plus grave qu'elle a toujours été. L'antisémitisme, pour moi, est un commencement. Ça a toujours été un commencement. Un commencement qui diffuse depuis 4000 ans ou 5000 ans. Mais ce n'est pas un recommencement. Il y a des périodes où on lève le tapis et on voit ce qu'il y a dessous. Des périodes où on rebat le tapis et on ne voit pas les acariens ou les poussières qu'il y a dessous. Mais ça n'a jamais changé.
Ce qui est étrange, Yann Moix, et vous l'imaginez bien, c'est qu'on a du mal à vous croire.
Pourquoi?
Parce que vous-même, vous avez été, et comment êtes-vous passé de l'étudiant...
Ah, vous en êtes encore là, Pauline?
Non, ça m'intéresse. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez, quand vous étiez étudiant, commis des dessins qui allaient dans un antisémitisme épouvantable, avec des propos y compris négationnistes, une revue.
Pas du tout. Non, d'abord, là encore,
c'est... Vous dites d'ailleurs avoir eu honte de cela. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de comprendre, a posteriori, vous êtes aujourd'hui un des premiers défenseurs, et vraiment un de ceux qui luttent contre l'antisémitisme, comment on a pu être antisémite?
D'abord, je ne l'ai jamais été. Jamais. Et pourquoi j'ai jamais été? Parce que, en fait, vous me reparlez d'un truc d'il y a 5 ans.
Mais oui, mais
ça n'a jamais
important.
Pris. D'ailleurs, ça
et
n'a jamais pris.
Cette polémique n'a pas pris. C'est très important de comprendre comment est-ce que vous passez de faire des dessins antisémites.
Alors, je vais vous répondre de manière brutale. La première, c'est que ces petites bandes dessinées, il y avait 4 numéros. Je redis pour la millième fois. Un, où je me parlais de la Shoah. Je me moquais de la Shoah, si vous voulez. J'avais 20 ans. Ensuite, je me moquais de la faim dans le monde. Je me moquais, je crois, des handicapés, et je me moquais de l'abbé Pierre. Donc en fait, c'était un petit journal qui se moquait de tous les tabous de l'époque, d'accord, dont les juifs. Mais c'était pas une obsession. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le niveau, c'était du style Lucky Luke à Dachau et les Schtroumpfs à Auschwitz. Hein. C'était pas un journal structuré, négationniste. C'était des sortes de pamphlets potaches, fanzine, si vous voulez.
Mais est-ce qu'il faudrait pas à l'inverse, Yann Moix, dire
attendez,
okay,
mais attendez.
J'ai eu ces espèces de pulsions.
Mais je ne les ai pas eues. Si vous voulez, il faut quand même que vous considériez quelque chose. C'est sorti, j'avais 50 ans. D'accord? Toute la journée, Apolline, on nous rebat les oreilles avec des gens qui ont failli tomber dans les marigots les plus sinistres quand ils avaient 20 ans et qui, tel habitant cité, tel en banlieue, tel en... et qui, au fur et à mesure des années, s'est arraché de sa gangue atroce pour devenir celui qu'il aurait dû être. Pourquoi je devrais être le seul dans ce pays qu'on ramènerait systématiquement à sa case de 30 ans...
Non, pas le seul, non, mais... pas le seul, Yann Moix. Mais justement,
non, mais Apolline,
ce qui
Apolline,
m'intéresse
est-ce aussi, que... c'est... Non, mais juste, est-ce qu'on a le droit... Admettons que vous ayez raison, d'accord? C'est faux, mais pour le débat. Admettons que j'ai eu une phase abjecte. Pourquoi est-ce qu'un individu dans la société n'a pas le droit, par son travail, par son intelligence, par sa culture et par les connaissances qu'il déploie autour de lui, d'évoluer, de changer?
Je crois que vous en avez ce droit, mais c'est important aussi justement de pouvoir le raconter, de pouvoir dire comment on évolue.
Mais je l'ai raconté. En fait, il se trouve que là, c'est un malentendu parce que j'ai pas eu besoin d'évoluer. C'était des crises ponctuelles de provocation.
Vous êtes inquiet sur la situation aujourd'hui?
Ah oui, je suis très inquiet. D'abord, je considère que les étudiants de Sciences Po sont pour la plupart des gens qui auraient été incapables d'intégrer l'école il y a 15 ans, à l'époque où il y avait un concours.
Vous êtes un ancien élève hein, oui. de Sciences Po.
À l'époque où il y avait un concours. Donc là, on se retrouve avec une poignée de misérables qui intimident une direction qui est d'une lâcheté phénoménale, et qui a accepté de transiger alors qu'il y a quelque chose qui est un marqueur de l'époque. On ne retire pas quelqu'un d'une salle au prétexte qu'il est ou qu'elle est juive. C'est gravissime. Là, il y a un relent d'années 30 qui est que cette école qui a été inventée pour la tolérance, apprendre la démocratie, la République, et pour que le débat se perpétue, se retrouve maintenant dans la caricature d'une sorte de Hezbollah portable ou de Hamas en bandoulière, et qui toute la journée agite une haine qui est impropre avec la culture des Sciences Po, qui s'appelait École libre des sciences politiques en 1872.
Merci Yann Moix, on restera sur ce mot de liberté. Yann Moix, votre livre Visa, c'est chez Grasset, il est 8h53.